enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Et certains ne rentraient pas chez eux, ils dormaient là devant la porte pour garder le troupeau et pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de mercenaires qui arrivent la nuit pour voler le bétail. Donc ils dormaient devant la porte. Et le fait qu'ils se tenaient devant la porte, on appelait le berger la porte. Donc la porte peut être comparée à une entrée, mais la porte aussi signifie une personne. Et la Bible nous dit que Jésus est la porte des brebis. Alléluia! Parce que Jésus est le bon berger. Il se tient devant la porte et lui-même, il est la porte. Nul ne peut passer pour aller au Père sans passer par lui. Et la Bible dit qu'à Jérusalem, il y avait la porte de brebis. Et quand on cherche la signification de la porte de brebis, non seulement ça veut dire Jésus, puisque Jésus veut dire le chemin, la vérité et la vie, mais la porte des brebis, ça veut dire la porte d'espérance. Ça veut dire que la porte de l'espoir, la porte de l'espérance, la porte qui nous ouvre de nouvelles perspectives, la porte qui nous ouvre un nouvel horizon vers l'avenir, la porte qui nous propulse vers notre destinée. Alléluia. En fait, la porte des brebis, c'est simplement le chemin de notre destinée que Dieu a tracé pour nous. Alléluia. La Bible dit que Jésus se tient à la porte des brebis. Il se tient sur le chemin de ta destinée. Alléluia. Ce n'est pas surprenant lorsque Joseph se dirige vers ses frères envoyés par son père Israël pour aller voir comment ses frères se portaient. La Bible déclare que lorsque Joseph marchait pour aller vers ses frères, il y eut un homme qui est arrivé sur son chemin. La Bible dit qu'il n'y avait ni nom, ni commencement, ni fin. On ne connaissait pas cet homme. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Cet homme s'était au chemin, sur le chemin de Joseph. Et apparemment, cet homme, ce n'était pas la première fois qu'il apparaît dans l'Ancien Testament. Cet homme apparaît une fois à Abraham. La Bible déclare qu'il n'avait ni commencement ni fin. Et Abraham voit un homme qui apparaît, qui n'avait ni père ni mère. Ni commencement ni fin. La Bible l'appelle le roi Salem, le roi de justice. La Bible l'appelle Melchisedec. La Bible l'appelle Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend là? La Bible déclare que il apparaît dans l'Ancien Testament à Abraham, il apparaît à Isaac, il apparaît à Jacob, et là il apparaît à Joseph sur le chemin de ses frères. Mais le chemin qui amène Joseph vers ses frères, vous connaissez très bien l'histoire, c'est le chemin qui amène Joseph en Égypte. Or, le chemin qui amène Joseph en Égypte, c'est le chemin qui amène Joseph vers sa destinée. Donc cet homme se tient sur le chemin de Joseph, sur le chemin de l'espérance, sur la porte de l'espérance. Cet homme se tient sur le chemin de sa destinée. Alléluia. Et Jésus aime marcher sur le chemin de notre destinée. Jésus aime se tenir à la porte de l'espérance. Alléluia. Et là, une fois de plus, la Bible déclare que Jésus va à Jérusalem. Il ne choisit pas n'importe quel endroit. Il y avait beaucoup d'endroits dans Jérusalem. La Bible déclare qu'il vient là à Jérusalem, à la piscine de Bethesda. Il se tient à la porte des brebis. La porte des brebis signifie également la porte de l'église. Car nous sommes les brebis du Seigneur. Oh, 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 alléluia. Vous allez me comprendre aujourd'hui. La Bible dit, Jésus se tient là, près de la porte des brebis. Il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Ce ne sera pas le thème de mon message aujourd'hui. Il arrivera un jour, on parlera des 5 portiques de la piscine de Bethesda. Mais ce n'est pas le titre de mon message ce matin. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade. Parmi tous les malades qui étaient là, la Bible s'arrête sur un homme qui était malade. Depuis 38 ans, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Nous allons nous arrêter là. Jésus, à la porte des brebis, à la porte de l'espérance, la Bible nous parle d'un homme qui était également là, à la porte des brebis, à la porte de l'espérance. Et cet homme était là depuis 38 ans, couché, paralysé, malade. Et la Bible déclare qu'il y avait chaque fois, de temps en temps, un mouvement des anges. Des anges qui avaient pour mission de guérir. Des anges qui étaient de la catégorie des anges guérisseurs. Ces anges venaient de temps en temps à la piscine de Bethesda. Et ils agitaient de l'eau. Il y avait un mouvement. Et à chaque mouvement, il y avait quelqu'un qui tombait dans l'eau avant lui. Et lui était là depuis 38 ans. Ça veut dire que pendant 38 ans, il a vécu 38 mouvements des anges. Mais pendant 38 mouvements des anges, cet homme est resté le même. Non seulement il a vécu 38 mouvements des anges, mais il était là malade devant la porte de l'espérance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. La Bible déclare, le mouvement des anges arrivait. Les anges signifient la gloire, car les anges sont aussi appelés gloire. Et la gloire de Dieu est matérialisée sur la terre par la présence et le mouvement des anges. Cet homme, pendant 38 ans, a vécu tous les réveils, a vécu toutes les onctions, a vécu toutes les dimensions de la présence de Dieu. Il était là devant la porte de l'espérance, mais il n'a jamais été guéri. Le mouvement des anges ici veut aussi signifier le mouvement et le cycle des saisons. Pendant 38 ans, pendant 38 saisons, pendant 38 cycles de saisons, l'année écoulée s'est achevée. L'année suivante a commencé. Une autre année est arrivée. Une autre année a encore commencé. Pendant 38 ans, cet homme est resté couché devant la porte de l'espérance sans en être guéri. Il a connu tous les hommes de Dieu qui sont passés. Il a connu toutes les onctions. Il a entendu toutes les révélations. Oh, qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Il a vu des gens qui prêchaient avec fougue. Il a vu des gens qui prêchaient avec douceur. Il a vu des gens qui faisaient courir les malades. Il a vu des gens qui prophétisaient. Il a vu des gens qui imposaient les mains. Toutes les onctions sont passées là. Il est resté le même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la question de Jésus semble bizarre. Quelqu'un est malade, tu viens encore lui poser la question de savoir, veux-tu être guéri? Mais Jésus n'est pas bizarre. Dans un sens, alléluia. En fait, ce que Jésus veut dire à cet homme, mais je ne comprends pas. Je ne te comprends pas. Ce que tu as connu, l'église où tu es, si quelqu'un que je connais quelque part était dans cette église, il serait guéri plus longtemps. Si quelqu'un que je connais était dans ta situation, sa vie aurait changé depuis longtemps. Si les gens que je connais, là où je reviens là-bas, avaient les mêmes opportunités que toi, leur destinée aurait changé depuis longtemps. Jésus veut savoir ce qui se passe exactement dans la vie de cet homme. Jésus veut lui dire, mais ce n'est pas possible, avec une telle grâce. Avec une telle grâce. Avec une telle onction, avec de telles révélations, avec une telle dimension de la présence de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ton église, tu ne changes pas. Veux-tu vraiment être guéri? Alléluia. Est-ce qu'on peut comme le Seigneur? Alléluia. Veux-tu vraiment être guéri? Et Jésus te pose la même question ce matin. Ça fait combien d'années que tu es à l'église? 2007 a commencé, 2007 achève. Tu es toujours le même. Veux-tu vraiment changer? Tu es né, tu es venu à l'église en 2004. Tu as vu l'arrivée du pasteur Sosten. Après, tu as vu l'arrivée du pasteur Tel. Tu as vu l'arrivée du pasteur Tel. Tu as vu Tel. Tous les grands orateurs qui sont passés jusqu'en 2007. 2007 a commencé. On a libéré des paroles prophétiques sur ta vie. Oui, Dieu m'a parlé, c'est vrai. Dieu lui-même t'a confirmé par tous les moyens. On arrive en fin 2007. Jésus se rend compte que malgré tout ce qu'il t'a donné, ta vie n'a pas changé. Tu as connu tous les mouvements. Tu as connu tous les réveils. Tu as connu toutes les onctions qui sont passées ici. Et Jésus revient ce matin. Il te pose la question. Veux-tu vraiment changer? Veux-tu vraiment rentrer dans ta destinée? Écoutez la réponse. La réponse de notre cher ami le paralytique. Verset 7. Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne. Seigneur, je n'ai personne. Donc, malgré les onctions, malgré la puissance que Dieu t'a donnée, malgré la grâce qui repose sur ta vie, malgré le niveau de connaissance que tu as acquis, tu veux encore que quelqu'un vienne te prendre et te jette dans l'eau, dans la piscine. Seigneur, je n'ai personne. Seigneur, quand je suis malade, il n'y a personne qui vient me rendre visite. Donc voilà pourquoi depuis 38 ans, je suis là. Si tu ne serais pas venu me voir, personne ne s'intéressait à moi. Donc, ça veut dire que cet homme était là depuis avant que Jésus ne soit né. Donc, il a attendu la naissance de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Depuis 38 ans, Jésus a fait 33 ans sur la terre. Son ministère a duré 3 ans. Il a commencé à l'âge de 30 ans. Donc, 5 ans avant la naissance de Jésus, le monsieur était là. Est-ce qu'elle me comprend? Donc, il a fallu que l'ange vienne parler à Marie. Un fils t'est donné, un enfant t'est né, etc. Et que Joseph aussi reçoit la maison. Pendant tout ce temps, Jean-Baptiste est arrivé. Il a prêché dans le désert. Il a baptisé les foules. Il a baptisé Jésus. Jésus est sorti de l'eau. Il est monté au désert. Il a jeûné pendant 40 ans et 40 nuits. Il est redescendu. Il a publié une année de grâce. Cet homme était là. Il attendait. Jésus a marché sur la terre, allant de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes, guérissant les malades, etc. Il a parcouru Galilée, il a parcouru Bethléem, il a parcouru Jérusalem. Il arrive à Jérusalem et tout cet homme est là. Un doyen du portique. De la piscine. Chaque année, c'est une nouvelle saison. Et à chaque saison, il y a de nouveaux vêtements. Donc, tu ne peux pas aller te baigner dans une piscine avec le maillot de l'année dernière. Chaque année, changer de maillot. Mais sa vie ne changeait pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et Jésus te pose la même question. Veux-tu vraiment changer? Seigneur, je n'ai personne. Quand je viens à l'église, on ne me regarde pas. Si je ne salue pas quelqu'un, on ne peut pas me saluer. Je n'ai personne. Quand je suis malade, on ne vient pas me rendre visite à la maison. Quand j'ai faim, personne ne me téléphone pour savoir si j'ai à manger ou pas. Je n'ai personne. Est-ce qu'on me regarde dans cette église? On rend visite à tout le monde sauf à moi, Seigneur. Je n'ai personne. Je t'ai obligé d'attendre ta naissance pour que tu viennes toi-même me rendre visite. Alléluia. Il y a des chrétiens aujourd'hui, et c'est la situation de chacun d'entre nous aujourd'hui. Quel que soit ce qu'on a pu recevoir comme grâce, On ne réalise pas la mesure, la grâce que Dieu nous a accordée et on continue à rester les mêmes depuis 38 ans. Comprenez par là depuis longtemps. Mais on a besoin que quelqu'un vienne nous prendre, que quelqu'un nous porte et que quelqu'un nous aide. En fait, pendant 38 ans, cet homme n'a pas été guéri, pas parce qu'il manquait l'onction, pas parce qu'il manquait la révélation, pas parce qu'il manquait la puissance, pas parce que Jésus n'était pas là. Non, Jésus était là. Il est la porte des brebis. Et il était bien couché à la porte des brebis, cet homme. Oui, cet homme n'était pas guéri parce qu'il manquait l'amour. Il n'était pas guéri parce qu'il manquait les visites. Il n'était pas guéri parce qu'il manquait le nécessaire qu'on puisse lui offrir pour qu'il soit guéri. Mais pendant 38 ans, cet homme n'était pas guéri à cause d'une mentalité. À cause d'une mentalité. Cette mentalité a paralysé son existence durant 38 ans. Et le thème de mon message ce matin, c'est le miracle de la mentalité. Alléluia. Bien-aimé, si ta mentalité est guérie, tu plonges dans la piscine. Écoutez la seconde réponse. Il dit, quand je vais plonger, quelqu'un d'autre plonge à ma place. Qui t'a dit que c'était seulement la place des autres? Quelqu'un d'autre plonge à ma place. Le sentiment de frustration, de rejet, en fait, c'est complexe d'infériorité. Les autres sont mieux que moi. Et moi, non. Pendant 38 ans, tu laisses passer tout le monde devant. Je serai à la place de cet homme, bien-aimé. Quelqu'un plonge avant moi. Moi aussi, je plonge. Si Dieu avait dit que l'ange descendait du ciel pour guérir une seule personne, ce jour-là, on devait guérir deux. Et à partir de ce jour, on devait écrire la Bible. Et à partir de ce jour, Dieu changea les choses. Il guérit deux personnes. Y compris Sostel Mabwadi. Alléluia. Alléluia. Dieu veut des hommes et des femmes. Une génération qui change les données. Alléluia. Il est écrit ceci de Jésus. Mais aussi il est écrit. Il a dit que quand l'ange descend, il doit guérir une seule personne. C'est celle qui plonge dans la piscine. Moi j'arrive, je change les données. À partir de maintenant, l'ange ne guérira plus une seule personne. Il guérira deux personnes. Moi dedans. Alléluia. Alléluia. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont cette mentalité, bien-aimés. On a besoin d'être guéri là-dedans. On a besoin d'être guéri de la mentalité d'assistant. On a besoin d'être guéri de la mentalité de c'est l'autre, pas moi. Et dimanche dernier, Dieu vous a parlé. Il nous a parlé. Il a dit, ce qui se passe dans le royaume de Dieu n'est pas l'apanage des pasteurs, n'est pas l'apanage des évangélistes, n'est pas l'apanage des prophètes, mais c'est une onction, une grâce, c'est un héritage qui est destiné à tous les enfants de Dieu. Bien-aimé, tu es capable de faire ce que Dieu a dit que tu feras. Ce à quoi Dieu t'a appelé. La Bible déclare qu'il a préparé des choses pour toi. Il a préparé des choses d'avance pour toi afin que tu les pratiques. Alléluia. Il y a un problème simplement. Il y a un miracle. Et le plus grand miracle que tu dois opérer, c'est dans ta tête. C'est dans ta mentalité. Et vous savez, un jour, j'ai reçu une lettre. C'était une entreprise qui voulait m'embaucher. Et je m'en vais, quand j'arrive, je rentre dans la salle où on a été reçu. Il y avait 30 personnes. 30 personnes. Et parmi les 30 personnes, il n'y avait que des blancs. Des blancs. Des blancs. Et j'étais le seul noir. Toc. Et là, présentation. Je me présente, tour de table. Je suis tel ex-consultant, ceci. Je suis tel directeur général, etc. Je suis tel. Diplômé en ceci, diplômé en cela, et tout le monde fait le tour. Et j'arrive, tac, ma body sustain. Jeune étudiant sorti droit de l'école. Ok, d'accord. Et de sur quoi? Noir. Et qu'est-ce que le diable me dit? Il me dit, toi-même, tu ne vois pas que là, ce n'est pas ta place. Et j'entends cette voix-là. Toi-même, tu ne vois pas ça. Et quand on présente l'entreprise et tout, voilà la politique, l'entreprise, la culture de l'entreprise, il y a une dame qui dit, moi, Le poste ne m'intéresse pas, je m'en vais, je sors parce que ce n'est pas ce type d'entreprise que je cherche. Et là, le diable revient encore une voix qui me dit, mais elle honnêteté intellectuelle de faire comme cette dame. Lève-toi, sors, tu sais que ce n'est pas ta place. Mais tu te fais des illusions, tu as des rêves utopiques. Et j'avais ce combat au-dedans de moi. Il y avait un seul poste à pouvoir, un poste de formateur. Un seul poste à pouvoir. Et le profil me correspondait parce qu'on cherchait quelqu'un qui avait au moins Bac plus 4, qui avait fait des études dans le management, dans la qualité, etc. J'étais dedans, je dis, mais le poste m'intéresse. Et j'étais là dans le combat. Mais je suis allé quand même jusqu'au bout. Je dis, non, je vais rester. Et quand je reste, on passe les tests psychothèques, etc. On passe tout. C'était toute la journée de sélection, jusqu'à la fin. Et première délibération, c'était à midi. On devait délibérer pour voir ce qui sont admissibles. Donc, si tu es admissible, tu restes. Tu n'es pas admissible, tu pars. Donc, on attendait. Midi, délibération. Premier nom, tel. Deuxième nom, tel. Et le cœur qui bat. Ah, Seigneur. Est-ce que je suis le diable qui me dit, toi, tu rêves. Le diable qui me dit, tu rêves. Et je suis là quand même, je dis, ah Seigneur, avant dernier nom, Sosten m'a abordé. Je dis, oh Jésus, alléluia. Et à l'instant, la foi est née dans mon cœur. L'espérance est née, alléluia. Je dis, Seigneur, donc tout est possible, alléluia. C'est possible encore que je puisse avoir ce poste. Parce que si j'ai réussi à passer parmi tous ces obstacles, ça veut dire qu'en fait, moi, je peux y aller jusqu'au bout, alléluia. Ce n'est pas une affaire d'être noir ou blanc, alléluia. C'est une affaire d'être guéri là-dedans. Alléluia. De croire que Dieu a une destinée pour ma vie et qu'il est capable de m'amener là où il a prévu que je puisse aller. Amen. Et de faire de moi ce qu'il a prévu que je sois, avec ou sans l'aide de quelqu'un, avec ou sans l'aide, le secours d'une main humaine. Dieu est capable de prendre un pauvre et de le mettre riche. Alléluia. De le faire asseoir sur la table avec les grands. Alléluia. Afin que tu aies le partage des riches. Alléluia. Et que la bénédiction de l'Éternel soit sur ta vie. Alléluia. Car la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit et ne se fait suivre aucun chagrin. Alléluia. Et ce jour, j'ai compris que c'était une affaire de mentalité. Amen. S'il y a des gens qui sont racistes ici, tout le monde n'est pas raciste. Amen. Dieu est capable de mettre devant toi des gens qui ne sont pas racistes pour t'amener dans ta destinée. Amen. Même si quelqu'un est raciste, bien-aimé, si ton dossier tombe entre ses mains, parce que ton Dieu est tout puissant, la Bible déclare, celui qui incline le cœur de roi comme de l'eau, il les incline comme de l'eau. Alléluia. Il est capable d'incliner le cœur même des racistes favorablement à ton égard. La Bible déclare qu'il est celui qui change le temps et les circonstances. Raciste ou pas raciste, bien-aimé, Dieu change le cœur de l'homme. Il le transforme comme ça, comme de l'eau. Alléluia. Et bien-aimé, à la fin des tests, il y avait deux personnes. Un jeune français et moi, on n'arrivait pas à nous départager. Il y avait un seul poste à pouvoir. On n'arrivait pas à nous départager. On dit, bon, on va refaire d'autres entretiens. On nous convoque, cette fois-ci avec la directrice elle-même. On pose des questions. Je dis, moi aussi, je ne me laisse pas faire aujourd'hui là. Je suis rentré à la maison, ma femme et moi, on va prier aujourd'hui là. J'ai repris mes bouquins. J'ai relu, je dis, je suis là, je suis blindé. Amen. Spirituellement, intellectuellement, moralement, amen, mentalement, amen, et émotionnellement. Alléluia. Amen. Je suis blindé. Amen. Quand j'arrive, costard, bien-aimé, même là, c'est rien. Je vous dis, quand j'arrive, oh frère, mon frère, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. J'arrive comme ça, bien-aimé. Je vois le jeune français qui sort du bureau. Lui-même qui me dit que là, tu vois, là, il est sorti, là, tout est déjà arrangé. Toi, tu vas passer là que pour la forme. Je dis, reste tranquille. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais sont des hommes. Alléluia. Arrière de moi, Satan. Quand je rentre, bonjour, monsieur, ma voix dit, bonjour, madame. Bonjour, madame. Donnez-moi une chaise. Donnez-moi une chaise. Je vais vous montrer comment les grands s'asseyent. Alléluia. Vous savez, il y a des choses. Parfois, pourquoi vous échouez à certaines choses? Rien que par votre apparence, on sent déjà que vous êtes défaitiste. On sent. Donc, même quand on est dans sa boue, ne montez pas. Je vous assure, ne montez pas. Ne tombe pas dans le piège de la fausse humilité comme quoi, non, il ne faut pas être hypocrite, il faut être toi-même. Et toi-même. Reste toi-même. Eh bien, tu restes toi-même. Moi, je ne veux pas rester moi-même. Je veux rester Jésus. Alléluia. Je veux revêtir la nature de Christ. Et la nature de Christ, ce n'est pas une nature de défaitiste. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Donc, si je suis moi-même, je suis d'avance perdant. Mais comme Jésus est gagnant, celui qui vit à moi, alors je suis gagnant. Donc, je fais taire ma nature. Mais devenez des artistes. Pour Jésus, devenez, vous êtes des étoiles. Jésus est l'étoile brillante du matin. Nous sommes la postérité des étoiles. Alléluia. Et nous sommes des étoiles. Et le mot étoile en anglais veut dire star. Star. Hey, soyez des stars. Alléluia. Soyez des artistes. Alléluia. Hey, faites taire votre ancienne nature. Revêtez la nature nouvelle. Alléluia. Et ce jour, j'ai revêtu la nature nouvelle. Je suis rentré. J'étais bien habillé. Je me suis habillé comme un roi, comme un prince. Alléluia. Quand j'ai salué cette dame, je suis rentré et tout. Je m'assois. Oh. Elle commence à sentir que non, je n'ai pas affaire à n'importe qui. Je sors ma mallette, je sors mon bloc-notes, je suis prêt à prendre les notes. Je regarde l'heure, je sors mon agenda. Pendant qu'elle est en train de préparer ce dossier, moi aussi, je suis en train de m'occuper. Alléluia! Je m'occupe. Alléluia! Je montre que je suis un homme d'affaires, j'ai plein de dossiers à gérer. Je vérifie que mon portable est bien éteint parce que c'est un moment important. Alléluia! Elle me regarde. Oui, monsieur Mabodi, déclinez votre CV, etc. Elle avait mon CV devant elle. J'ai pas cherché. J'avais mon stylo et tout, j'ai rangé mon stylo. Alléluia! Et j'ai commencé à parler. J'ai commencé à décrire mon CV, etc. Pieds croisés. Avec assurance. Avec conviction. Elle me pose la question de savoir qu'est-ce qui, en fait, m'amènerait à retenir votre candidature plutôt que l'autre. Je dis parce que je suis le meilleur. Tout simplement. Oui, parce que je suis le meilleur. Ce poste, il est à moi. Alléluia. Assurance, conviction, motivation. Elle a vu que j'étais motivé. Alléluia. C'est pas une affaire de blanc ou de noir, bien aimé. C'est une affaire de mentalité, de caractère. C'est une affaire de valeur que nous devons intégrer dans notre vie, dans notre style de vie, dans notre comportement. Alléluia. Et cet homme-là, pendant 38 ans, était malade de ça. Son problème n'était pas un problème de démons. Donc Jésus, quand il est venu, il n'a pas chassé les démons dans la vie de cet homme. Ce n'était pas une affaire de démons. Comprenez? Il a posé une question, il a touché son problème. Il a dit, veux-tu vraiment être guéri? C'était là-dedans. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes malades. Nous avons l'impression que les démons nous ont emprisonnés. Pas parce que réellement les démons sont dans notre corps. C'est pas parce que les démons sont dans notre vie. Non, non. C'est tout simplement parce que nous sommes malades là-dedans. On a besoin d'être guéri. Délivré. Et c'est pourquoi je parle du miracle de la mentalité, bien-aimé. Regardez, Moïse. Il envoie des espions de chaque tribu d'Israël. Et quand ils partent pour explorer Canaan, la terre promise, il y a deux groupes qui se détachent. Quand ils reviennent, il y a un groupe qui dit à Moïse, qui dit, le pays qu'on a vu là-bas, c'est véritablement un pays où coule le lait, le miel. Mais les géants qui sont là-bas, je t'assure, Moïse, toi tu es un homme de Dieu, c'est vrai. Tu as l'onction. On a vu que tu as ouvert la mer rouge en deux, c'est vrai. Tu as fait sortir de l'eau du rocher, c'est vrai. Tu as fait descendre la main du ciel, c'est vrai. Mais c'est qui est là-bas? Oh. Je t'assure que à nos yeux et même à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Donc, ton onction là, c'est bien ici au désert. Mais là-bas, tu ne pourras pas. Moïse a dit, non, j'ai envie d'entendre autre chose. Dites, j'ai envie d'entendre autre chose. Alléluia. Ce n'est pas pour rien, Jésus ne laissait pas n'importe qui parler sur sa vie. Quand il s'approchait devant un démoniaque, le démon commence à parler, dit que j'ai envie d'entendre autre chose. Tais-toi. Tais-toi. Laisse encore faire, laisse encore. Alléluia. Dis tais-toi. Pourquoi? Parce que ce que vous entendez affecte votre mentalité. Affecte votre être intérieur. Même dans le monde, on nous enseigne ceci, que la motivation d'un être humain dépend de son degré à traiter ses sentiments, ses émotions et son caractère parasite. Donc lorsque vous avez en vous des sentiments parasites, des émotions parasites, des états d'âme parasites, négatifs, vous avez une mentalité négative, un caractère négatif, ce qui est au-delà de vous se voit à l'extérieur de vous. Donc ce qui fait que votre environnement vous lie au travers de ce que vous êtes, ce qui est au-delà de vous, vos émotions, vos pensées, vos sentiments, vos valeurs se reflètent à l'extérieur par vos attitudes, vos comportements, vos paroles et vos agissements. Ce qui fait que si un employeur veut vous embaucher, il ne va pas savoir ce qu'il y a dans toi parce qu'il n'est pas Dieu. Même le diable ne peut pas savoir ce qu'il y a dans toi car il n'est pas Dieu. Donc l'homme ne peut pas voir ce qu'il y a dans toi parce que l'homme ne regarde que ce qu'il frappe aux yeux. Il va regarder à quoi? À ton apparence. Et il va analyser. Et il y a des spécialistes en entreprise qui sont diplômés pour étudier les comportements. Ils ont fait ce qu'on appelle la PNL, la programmation neuro-linguistique. Au travers de tes sens, ils peuvent savoir si tu es kinesthésique, si tu es plutôt mémoire visuelle, auditive, etc. Et ils t'analysent si tu as tendance à être défaitiste. Tu n'es pas souvent quelqu'un de fort de caractère. Il peut t'analyser. Pourquoi ils font des logiciels comme Sosie? Sosie, c'est basé sur quoi? C'est sur ces choses-là. Donc quand tu arrives là, il te voit. Celui-là ne correspond pas au poste. Mais j'ai les diplômes. Mais j'ai tout. Oui. Mais là-dedans, tu as besoin d'un miracle. Alléluia. Amen. Tu as besoin de traiter tes émotions parasites, tes sentiments parasites, tes valeurs parasites, tes croyances même, les croyances parasites. C'est pourquoi Romains chapitre 12, versets 1 à 2, déclare « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, dites transformés, par le renouvellement de votre intelligence. » Alléluia. Voici le plus grand miracle à opérer d'abord, avant de chasser les démons. Alléluia. Avant de jeûner, prier et intercéder pendant 40 jours. Alléluia. Et toutes ces choses sont bonnes, on les a enseignées ici. Mais le premier miracle que Jésus a opéré avant de commencer son ministère, c'est le miracle de la transformation. La première chose, c'est là, il va transformer. Et je suis rentré dans le bureau de cette femme. Tout beau, tout élégant, tout confiant et tout serein. Et mon apparence a montré que j'étais convaincu. Que je croyais en moi-même, que je croyais à mes acquis, et que j'étais convaincu que ce poste, je suis capable de l'assumer. Après tout le reste, quand elle a posé la question, j'ai répondu, au point qu'à un moment donné, il fallait nous départager avec ce jeune homme, elle ne pouvait pas nous départager, malgré toutes ces étapes. Qu'est-ce qu'elle fait? Ne pouvant pas nous départager, parce qu'il n'avait qu'un seul poste à pouvoir, elle dit, bon, écoutez, elle nous appelle les deux, et dit, j'ai un problème. Je n'arrive pas à vous départager. Vous tenez les coudes. Je tiens à vous signaler que cette femme-là avait le droit de me disqualifier et de prendre le français. Elle était dans le droit parce que la loi française dit que l'emploi est opposable aux étrangers. En ce sens que la priorité, c'est d'abord aux nationaux. Donc, selon la loi, elle serait en règle de prendre le français et de me laisser. Elle n'a pas fait. Alléluia. Elle a combattu la préfecture, la DDTE, qui ne voulait pas délivrer l'autorisation de travail. Elle a écrit une lettre avec tous les membres du jury pour dire que ce gars-là, nous le voulons. Alléluia. Elle ne me connaît pas. Elle ne connaît pas mon père, elle ne connaît pas ma mère. On n'est pas parenté. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que cette femme-là, coûte que coûte, elle voulait de moi à ce poste? C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui change les cœurs des gens. C'est Dieu qui renverse et établit les rois. C'est lui qui change tout. Elle nous dit, voilà, j'ai un problème. Je ne peux pas vous départager. Comme la chose en est ainsi, alors je crée un second poste. Oh, bien aimé. Tous les deux, on a plongé dans la piscine. Alléluia! Tous les deux, on a plongé dans la piscine. Et depuis ce jour, Dieu a commencé à guérir plus d'une personne. Alléluia! Hey, on a créé deux postes. Et on a assis face à face. Alléluia! On fait les mêmes formations. On a le même salaire. On a les mêmes traitements. Alléluia! C'est ça, l'héritage des enfants de Dieu. On n'est pas venu ici pour accompagner les autres sur la terre. Il n'y a pas de gens qui sont nés pour réussir, d'autres pour échouer. Il n'y a pas de gens qui sont nés pour être pauvres, d'autres pour être riches. Il n'y en a pas qui sont nés pour se marier, d'autres célibataires. La Bible déclare, avant même que tu ne sois formé au levant de ta mère, je t'avais déjà choisi, je t'ai établi. Je te connaissais déjà, j'avais déjà établi pour toi une destinée. Alléluia. Mais tout se passe là dans la tête. Là, il faut changer là. Et je ne pense pas qu'ici en France, il y ait autant de racistes qu'on le pense. C'est une minorité qui essaie de faire leur petit numéro, de faire croire que toute la France pense pareil. C'est faux. Le diable était menteur. Ainsi que sa belle-mère. Alléluia. Oui. Hey. Vous savez, je vous dis une chose. Oui. Ah, très bonne question. Je voulais en venir justement. Quelqu'un peut dire, c'est qui sa belle-mère? La belle-mère, vous savez, Dieu a fait de nous une église. L'épouse, alléluia. Toute église qui ne croit pas au message de l'évangile, qui ne prêche pas Jésus tel qu'on le prêche en ce moment, pour propulser dans leur destinée, on fait alliance avec le diable. Ces églises ne sont pas nées de Dieu, sont nées du diable. Voici la belle-mère du diable. Oui. Toute personne qui fait alliance avec les pensées du diable, il a dit à Pierre, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'au moment où Pierre tentait de faire alliance avec le diable. Alléluia. Regardez le fils prodigue. Le fils prodigue, il a péché. Il reconnaît qu'il a péché contre Dieu, contre son père, contre tout. Il a péché. Il a pris sa fortune. Il a vécu dans la débauche, dit la Bible. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que quand il est rentré en lui-même, au-delà de lui, il a dit, là n'est pas ma destinée. J'ai péché, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant que je vais manger la nourriture des cochons. Oui. Vous voulez qu'on lise la... On va lire ensemble. Luc, chapitre 15, verset 11 à 32. Tout s'est passé là dans la tête. Il n'est pas allé appeler Jésus pour que Jésus prie pour lui. Il n'est pas allé chercher les anciens pour les anciens pour dire, oh, je n'ai personne, je vais aller voir les anciens pour prier pour moi. Quelque chose s'est passé dans sa vie qui a déclenché un processus qui a changé le cours de son histoire. Alléluia. C'est dans Luc, chapitre 15, verset 11 à 32. Lisons ensemble. Et refusez les mentalités du diable, refusez les pensées du diable, refusez de faire alliance avec le diable, refusez d'être la belle-mère de Satan. Refusez. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas appelé à avoir part à l'héritage du diable. Vous êtes appelé à avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et votre héritage, c'est celle qui vous est destinée. Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Bon, vous connaissez l'histoire, ok? Bon, on va lire à partir du verset 17. Lisons à partir du verset 12. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui me revient de droit. » J'ouvre une parenthèse. Quand il dit « Donne-moi ma part de bien », ça veut dire qu'en fait, il ne commettait pas une erreur, il ne commettait pas un péché. Parce qu'en réalité, dans le contexte de ce passage, quand on étudie le contexte théologique de ce passage, le père avait réuni ses enfants. Il les a réunis, il leur a dit, bah, écoutez, d'ici à ce que je meure, on ne sait jamais, je vais vous faire part de mon héritage. Voici mes biens. J'ai des affaires à tel endroit. J'ai investi dans tel lieu. J'ai des comptes dans telle banque, etc. Et voici ce que je prévois faire. Voici toi le fils aîné, ta part d'héritage. Voici toi le fils cadet, ta part d'héritage. Donc lors de cette réunion de famille, le fils cadet prend connaissance ce jour-là qu'il a une part d'héritage qui lui revient de droit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, la réunion est terminée, et il revient vers son père lui dire, mon père, je suis maintenant majeur. J'ai 18 ans. Je crois que la valeur n'attend pas le nombre d'années. Et je crois en moi-même. Je crois en mon potentiel. Je crois que je suis capable de faire quelque chose. Donne-moi ma part d'héritage. Au lieu que ça dorme quelque part sans rien produire, moi je veux prendre ça, je veux produire. Dites produire. Je veux fructifier. Alléluia. Et le père, s'il a donné la part d'héritage à son fils, c'est parce qu'il a vu que son fils était capable. Donc il a cru en son fils. Il n'est pas insensé. Homme aussi âgé, intelligent, mature, de donner une Mercedes à un enfant de 9 ans. Donc s'il a fait, c'est parce qu'il était conscient que le fils pouvait bien gérer cet argent. Donc c'est parti sur des bases légales. Des bases tout à fait légales. Le fils prend son héritage. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, il essaie d'investir, etc. Manque d'expérience, manque vraiment de maturité peut-être dans certains domaines. Eh bien, il n'a pas pu gérer comme il fallait. Les faiblesses, etc. Il a dilapidé ses biens. Mais regardez ce qui se passe. Il se retrouve dans une situation où la Bible déclare que on continue, on est au verset 13. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien et vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Et le verset 17, écoutez ceci, le verset 17, le miracle de la mentalité se produit dans la vie de cet homme. La Bible déclare que, étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me leverai. Il commence à se réveiller. Le réveil arrive. Je me leverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel. Beaucoup de personnes dans l'église de Christ n'arrivent pas à rentrer dans leur destinée parce qu'ils pensent que Dieu ne les aime plus et que Dieu ne peut plus les accepter à cause de tout ce qu'ils ont fait comme erreur, comme bêtise, comme péché. Ils sont tellement indignes qu'ils pensent que Dieu ne peut plus les recevoir. Et ils sont bloqués. Un obstacle dans leur mentalité les empêche de rentrer dans leur destinée. L'obstacle de la culpabilité, l'obstacle du rejet, l'obstacle du manque d'estime de soi, l'obstacle du manque de pardon. Il y a même des gens dans cette église, ainsi parle l'Éternel, je vous ai pardonné depuis longtemps. Mais vous n'arrivez pas à croire que je vous ai pardonné. Je t'ai pardonné depuis longtemps. Mais tu n'arrives pas à croire que je t'ai pardonné. Et il y en a dans cette assemblée. Je t'ai pardonné depuis longtemps. Mais tu n'arrives pas à te pardonner toi-même. Mais je prie que ce matin, Seigneur, tu libères ton peuple, que tu opères un miracle dans la mentalité des enfants, afin qu'ils soient libérés de ce manque de pardon. Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment peux-tu aimer Dieu? Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment peux-tu aimer les enfants de Dieu? Et ce jeune enfant a dû franchir cette barrière. Et quand il arrive, son père le reçoit, bras ouverts, il fait une fête. Alléluia. La Bible est un livre de fête. Alléluia. Et j'aime fêter avec le Seigneur. Alléluia. Et regardez la réaction du fils aîné. Il dit à son père, il dit, moi je suis tout le temps avec toi. Tu m'as jamais fait une fête. Ton fils qui a dilapidé ses biens, etc. Il revient, tu lui fais une fête. Le père lui dit, mais tu es tout le temps avec moi. Ce qui est à moi est à toi. Lui, il avait un problème, ce gars-là. Il avait un problème. Parce qu'il croyait dans sa tête que une fois le père, après avoir partagé l'héritage, devait encore tout le temps revenir pour lui dire que mon fils, tu as un héritage, mais tu as faim aujourd'hui, prends temps. Mon fils, tu as besoin de quoi? Mon fils, tu veux une voiture? Mon fils. Donc, il attendait toujours que le père, chaque fois, malgré le fait qu'il aura donné l'héritage, revienne tout le temps pour lui dire, tu as besoin de quelque chose? Veux-tu vraiment être guéri? Veux-tu vraiment aller loin? Qu'est-ce que tu veux que je fasse encore pour toi? Malgré l'héritage que je t'ai donné, tu as tout à ta disposition à la maison. Tu veux encore que moi je vienne te donner à manger? C'est-à-dire que je t'ai servi le plat, je t'ai fait la table, il y a le couvert, tout est là. Tu veux encore que je te ouvre le couvert? C'est pas grave, je veux ouvrir. Je découvre le plat. Tu veux encore que je te mette le... comme un bébé? Un bavoir? Veux-tu que je prenne le couvert, que je prenne la fourchette, que je prenne le morceau de viande, que tu le mettes dans la bouche? Mais c'est ce que le fils aîné voulait que le père fasse pour lui. Le père dit, mais tu as tout dans la maison, c'est là, sers-toi, ce qui est à moi et à toi. Et lui, il croyait que s'il le faisait, son père devait se fâcher. Il croyait que s'il prenait l'argent qui était en banque, son père devait se fâcher contre lui. La mentalité. Donc il est resté pendant longtemps avec son père, croyant que, en fait, c'est son père qui devait tout faire à sa place. Regardez jusqu'où il va. Il va dans les champs. Dans les champs pour aller travailler dans les plantations. Or, à l'époque et même aujourd'hui, pour un fils de roi, pour un prince, sa place, ce n'est pas dans les champs. Le prince n'est pas appelé à aller travailler dans les champs. Parce que les champs, c'était le travail des serviteurs, des esclaves. Donc lui, voulant plaire à son père, pensant que ça devait faire du bien à son père, quitte son trône de prince, il va dans les plantations pour aller travailler. Qui lui a demandé? Personne. Tout ça, et c'est nous aujourd'hui. On essaie de tout faire pour être agréable à Dieu par nos moyens. C'est ça la religion. Toutes sortes de bonnes œuvres pour plaire à Dieu. Oui, si je fais ça, c'est certainement Dieu sera content. Mais est-ce qu'il t'a demandé? Si je décrète un jeûne de 21 jours, j'aurai mon mari. Je le sens. Qui t'a demandé? Quand tu jeûnes pendant 21 jours, tu as même perdu le poids. Tu sors là. Ma soeur, mais comment tu es malade? Je jeûne. Le mari, il n'est toujours pas là. Non. Jésus lui-même, pour jeûner, la Bible déclare qu'il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Hé, qui t'a demandé? Donc il faisait tout ça, croyant être agréable à son père. Mais sa place n'était pas dans les champs. Sa place était dans le trône, sur le trône. Et lui, il avait la mentalité d'esclave. Il continuait à aller travailler avec les esclaves dans les champs. Mais que dit la Bible? Aussi longtemps qu'un héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Voici sa situation aujourd'hui. C'est là dans la tête. Alléluia. Tout se passe là dans la tête. Et moi, je refusais. Et depuis ce jour, ils ont créé un deuxième poste. Mon frère, tu peux maintenant venir, évangéliste. Alléluia. Pasteur, voilà. Excusez-moi. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Seigneur, guéris notre mentalité. Ne chassons pas les démons où ils ne sont pas. Ne jeûnons pas quand il ne faut pas jeûner. Ne prions pas quand il ne faut pas prier n'importe comment. La Bible dit qu'on ne combat pas comme battant l'air. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. La Bible déclare que c'est par la foi que Rahab, la prostituée, fut justifiée. Elle n'a pas regardé sa condition de prostituée. Elle a regardé à l'espérance, la porte d'espérance. Jésus qui pouvait le pardonner. L'a pardonné. Lui pardonné. Alléluia. La Bible déclare que c'est par la foi que Abraham a quitté son père pour aller vers la promesse de Dieu. Croyant à ce que Dieu lui avait promis et se dirigeant vers un pays qu'il n'avait jamais connu. C'est par la foi. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice bien plus excellent que celui de son frère Caïn et il fut exaucé. Et c'est par la foi que le sang d'Abel qui a coulé crie encore aujourd'hui en faveur de lui. C'est par la foi que Ruth quitta sa patrie, quitta son pays pour s'attacher à Naomi. D'une apparence sans espérance, mais croyant et considérant que sa destinée était attachée à cette femme. C'est par la foi que Joseph, vendu par ses frères, rentre en Égypte, sert Potiphar, se retrouve en prison, gardant l'espérance du salut. Jusqu'au jour où Dieu fasse justice et l'élève, le sort de la prison et le fait accéder au trône royal. C'est par la foi que Moïse a refusé d'être appelé le fils de Pharaon, quittant les richesses, la connaissance et les avantages du trône royal. Parce qu'il avait cru qu'il avait une grande destinée et que Dieu l'avait appelé pour délivrer son peuple. C'est par la foi que Moïse crut au message de Dieu lorsqu'il sort et qu'il rentre dans les airs que là, il voit un feu, un buisson qui ne consumait pas. C'est par la foi qu'il regarde la vision qui était dans le buisson, se détournant les choses de ce monde, se détournant de ce qui était derrière, considérant l'espérance de son avenir. C'est par la foi que les prophètes ont parlé au sujet de la naissance de Jésus-Christ. Et qu'ils ont cru que ces choses sont arrivées. Et ils arrivèrent. Quand bien même ils sont morts sans avoir vu ces choses, ayant désiré plonger leur regard dans ces choses, mais parce que ces choses ne leur avaient peut-être pas destinées, car ces choses, c'était des mystères que Dieu avait prédestinés pour toi. C'est par la foi que les apôtres reçurent le message de Christ et attendirent pendant longtemps que le Saint-Esprit vienne. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. C'est par la foi que l'Église est née sous l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est par la foi que ces hommes ont marché sur la terre, opérant des miracles comme Jésus a opéré sur la terre et faisant des miracles même bien plus grands que Jésus. C'est par la foi que l'apôtre Paul reçut Jésus après avoir persécuté l'Église de Christ et devient le plus grand apôtre. Et c'est par la foi que Christ aujourd'hui t'appelle à marcher sur le même chemin et à faire des choses comme ces héros de la foi, afin que ton nom soit inscrit parmi tous les héros de la foi que je viens de citer. Le temps me manquerait de parler d'Enoch, de Gédéon, de Joseph, de Josué et de Caleb. Le temps me manquerait. Mais Dieu veut que ton nom soit cité parmi la liste des héros de la foi. Quand tu lis Hébreux chapitre 11, à la fin, quand il finit de citer tous les héros de la foi, ajoute ton nom. Ajoute ton nom. Ajoute ton nom. Pourquoi? Parce que Abraham est mort. Jacob est mort. Isaac est mort. Joseph est mort. Moïse est mort. Josué est mort. Caleb est mort. Bien-aimé, tous les héros de la foi que je viens de citer, ils sont tous morts. Mais ma Bible me dit que mon Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivant. Moi, je suis vivant aujourd'hui. C'est maintenant à moi d'écrire mon histoire avec lui. C'est à moi d'écrire mon histoire maintenant. Et donc, j'ajoute à la liste d'Hébreux 11, Sosthène Mabwadi. Lève-toi, nous allons prier.
Alléluia.
Lève-toi, nous allons prier. Gloire à Jésus. Seigneur, guéris notre mentalité, Seigneur. Le miracle de la mentalité. Aide-nous à transcender les obstacles qui nous empêchent de rentrer dans notre destinée, Seigneur. les pensées mauvaises, les pensées parasites, les croyances erronées, les choses qui n'ont rien à voir avec ta parole. Seigneur, aide-nous à changer de mentalité, à être renouvelés par notre intelligence, par le Saint-Esprit dans notre intelligence, afin de rentrer dans notre destinée, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu. Aide-nous. Je refuse de croire que les démons sont toujours en train de m'attaquer. Parce que, bien-aimé, Jésus a vaincu le démon. Il m'a donné sa victoire. Je refuse de croire que les démons sont toujours en train de me rendre la vie difficile dans ma vie. Je refuse. Je veux vraiment changer. Tu m'as posé la question, Seigneur, veux-tu vraiment changer? Je te réponds, oui, Seigneur, je le veux, Seigneur. Je le veux. À l'orée de cette année 2008 qui se pointe à l'horizon, je veux me détourner de tout mon passé pour me porter vers l'espérance. La porte de l'espérance. Je veux rentrer en 2008 avec une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de me voir moi, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir et de me comporter face à ma vie personnelle, face à ma vie conjugale, vis-à-vis de mon fils, face à mon environnement, dans mon lieu de travail, dans ma communauté, à l'église. Je veux, Seigneur, changer. Je veux revêtir la nature de Christ en moi. Je ne veux plus que ce soit moi qui vive, mais que ce soit toi qui vive en moi et au travers de moi, Seigneur. Change-moi. Transforme-moi. Sanctifie-moi. Qu'on te voie, toi, au travers de moi. Seigneur, opère un miracle dans ma mentalité. Aide-moi, Seigneur. Je veux rentrer dans ma destinée. Je veux rentrer dans ma destinée. Et... Au rabassant dans la machine. Opère ce miracle, Seigneur. Opère ce miracle. Dans mon cœur et dans mes pensées, Seigneur. Écoute ce que dit l'Éternel à l'église et à ton sujet. Tu seras et tu deviendras ce que tu aurais voulu que tu sois. Ta vie sera celle que toi tu aurais voulu qu'elle soit. Si tu le veux, tu peux devenir ce que tu espères devenir. Car il n'est pas trop tard pour entrer dans sa destinée. Tu as des rêves, tu as eu des rêves dans ta vie. Depuis ton enfance, tu as eu des rêves. Ces rêves que tu as nourris dans ton cœur, depuis ton enfance, c'est moi qui les ai déposés en toi. Ce sont des choses que j'ai préparées d'avance pour toi, afin que tu les pratiques. Les années sont passées. Les difficultés de la vie sont arrivées. Les épreuves de la vie t'ont accablé. Au bout d'un certain moment, tu as commencé à douter de toi-même. Tu as commencé à douter de tes capacités. Tu as commencé à croire que ces rêves n'étaient que des rêves d'enfance. Mais moi, l'Éternel, je viens vers toi ce matin pour te dire, ces rêves ne sont pas des rêves d'enfance. Ces rêves sont mes rêves que j'ai déposés en toi. Et si tu le crois de tout ton cœur, tu es capable et je te rendrai capable d'accomplir ses rêves. Tu as désiré toujours travailler dans les œuvres caritatives, aider les pauvres, aider les démunis, aider les enfants de la rue. Ce rêve se réalisera si tu le veux. Même si tu n'as pas de moyens aujourd'hui, si tu le crois, ton rêve deviendra réalité. Tu as fait des études. Tu es plein de diplômes. Aujourd'hui, tu es obligé d'aller travailler, comme on a entendu ce témoignage aujourd'hui, pour être gardien, veilleur de nuit. Je ne t'ai pas destiné à ça, dit l'Éternel. Je ne t'ai pas destiné à ça. Si j'ai permis que tu fasses ces études, c'est parce que j'avais un plan pour ta vie. J'ai une grande destinée pour toi. Et si tu le crois, je suis capable de t'amener là où j'ai prévu que tu ailles. Et tu deviendras ce que moi, l'Éternel, dit Dieu. J'ai voulu que tu deviennes. Tes études commencent à se compliquer. Tu n'as plus assez d'argent pour financer tes études. C'est moi l'Éternel qui t'ai dit de faire ces études. Je t'ai donné cette vision. Sois capable de croire que j'ai également réservé la provision, dit l'Éternel des armées. Tu regardes ta maladie et tu crois qu'à cause de cette maladie, tu ne seras plus capable de rentrer dans ta destinée car tu crains de mourir. Penses-tu que je suis insensé, dit l'Éternel, de t'appeler à un tel ministère et de te donner une maladie qui va te tuer avant d'avoir accompli ces choses? Je ne suis point un Dieu qui me réunit, dit l'Éternel des armées. C'est moi qui t'ai appelé à me servir. Ce que j'ai dit que tu feras, ce rêve que tu as dans ton cœur, tu l'accompliras. Et ce n'est pas la maladie qui te l'empêchera. Ce n'est pas la maladie qui t'empêchera. Tu penses que ton mari est un obstacle pour toi. Parce qu'il ne croit pas en moi, dit l'Éternel. Parce qu'il n'est pas chrétien. Regarde ce qui se passe dans le monde. J'utilise des femmes qui sont célibataires. J'utilise des femmes qui sont mariées à des personnes qui ne sont même pas chrétiennes. Il y a des femmes qui vivent les choses pires que toi. Je parcours le monde, dit l'Éternel. Je vois les situations de chaque être humain sur la terre, dit l'Éternel. Je connais une femme, dit Dieu, dont le mari était un franc-maçon, un rosicrucien. Mais je l'ai appelé à me servir. Et elle me sert aujourd'hui, l'Éternel des armées. Je l'utilise pour parler aux femmes, pour parler aux jeunes filles, pour parler à mes serviteurs. Elle me sert dans la position d'intercesseuse et de prophétesse. Son mari, qui n'est pas chrétien, n'a jamais été un obstacle dans son ministère. Et toi, tu me dis, Seigneur, je te servirai que quand mon mari deviendra chrétien. Seigneur, je ne peux pas te servir parce que mon mari me persécute. Seigneur, je ne peux pas te servir parce que mon mari n'est pas encore converti. Seigneur, je vais divorcer avec lui pour te servir. Parce que je veux te servir de tout mon cœur. Car il m'empêche de te servir. Parce que tu limites ma puissance. Parce que tu limites mon pouvoir. À partir de maintenant, dit l'Éternel, apprends à te regarder autrement. Apprends à te regarder autrement. Regarde-toi comme moi je te regarde. Vois-toi comme moi je te vois, dit l'Éternel des armées. Et ton mari, je m'en occupe. Ton mari, je m'en occuperai, dit l'Éternel des armées. Mais toi, sers-moi, rentre dans ta destinée. Alléluia. Je vais terminer en libérant cette dernière prophétie. Ainsi dit l'Éternel à une personne dans la salle. Tu penses qu'on ne t'aime pas. Ce n'est pas moi qui te l'ai dit. Je te rassure, dans cette assemblée, beaucoup de personnes t'aiment. Car j'ai déposé dans leur cœur mon amour, dit l'Éternel des armées. Mais l'ennemi, le diable, l'adversaire, veut te faire croire et te faire voir le contraire. Mais si tu décides de croire en moi, ta vie ne sera plus jamais la même. Et tu connaîtras l'amour des autres. Et tu connaîtras mon amour, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Levons-nous voir en nom grâce à Dieu pour ce message prophétique. Prions tous ensemble. Alléluia. Merci Seigneur, oh Dieu, pour l'Église. Tu as parlé à ton peuple ce matin. Et chacun prie pour sa vie. Ce matin, je ne prierai pas pour les gens. C'est à chacun de prendre sa destinée dans ses mains maintenant. Après tout ce que tu as entendu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu par rapport à ta propre vie. Prie Dieu par rapport à ta destinée. Prie Dieu par rapport à ta mentalité. Prie Dieu par rapport à tes pensées. Communion et en communication avec ton Dieu. Prie, prie, prie. Le diable ne veut pas que tu pries. Ouvre ta bouche et prie. Prie ton Dieu. Refuse de croire que tu es maudit. Tu n'es pas maudit. Je dis, tu n'es pas maudit. Refuse de croire que tu es maudit. Tu n'es pas maudit. Refuse de croire que tu ne vas jamais te marier. C'est faux. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Refuse de croire que tu n'auras jamais du travail. Si, tu auras du travail. C'est la volonté de Dieu pour ta vie. Tu auras du travail. Si tu le veux, tu auras du travail. Veux-tu vraiment avoir du travail? Alors change ta mentalité. Alléluia. Tu ne mourras pas avec cette maladie. Parce que Christ sur la croix t'a déjà guéri. Refuse de croire que tu es malade. Mais confesse que tu es guéri. Veux-tu vraiment être guéri? Alors change ta façon de penser. Change ta façon de penser. Le diable veut te faire croire que tes affaires battent de l'aile et le navire va chavirer et que la tempête est en train de souffler, tu n'iras pas de l'autre bord. Mais Jésus t'a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Refuse de croire que tu feras faillite. Refuse de croire que tu vas connaître l'échec. Refuse de croire ces choses-là. Tu veux vraiment réussir dans tes affaires. Tu veux vraiment prospérer. Alors change ta façon de penser. Change ta mentalité. Tu penses que tu es arrivé au point où tu ne peux plus rien faire et que vaut mieux tout arrêter. Refuse de croire à cela parce que Dieu a encore des choses à faire avec toi sur la terre. Dieu a encore des choses à faire avec toi sur la terre. Ta mission n'est pas finie sur la terre. Dieu veut encore faire des choses avec toi sur la terre. Et Dieu va ouvrir une porte pour toi. Dans très bientôt, tu vas rentrer dans une nouvelle dimension. Des choses que tu n'as jamais faites. Il va le faire avec toi. Est-ce qu'on peut terminer avec un cantique d'adoration pendant au moins 2 ou 3 minutes avant que je laisse la place pour la suite, la fin. Un cantique d'action, de grâce, de reconnaissance qui élève notre espérance, qui élève notre foi, qui élève notre reconnaissance envers Dieu. Ce matin, je ne prierai pas pour les gens parce que ce n'est pas ce que Dieu m'a dit de faire. Le miracle, ça ne viendra pas par l'imposition des mains ce soir, ce matin. Le miracle viendra par ta capacité à passer au-dessus des obstacles de ta mentalité. Le miracle s'opère dans ton intelligence, dans ta mentalité, dans tes pensées. Change ton monde intérieur et tu verras que ton monde extérieur aussi va changer. Détruis tous les parasites et toutes les bêtes qui te rongent à l'intérieur de toi. Ce sont là les vrais démons. Les démons de la pensée, les démons des émotions. Parce que les autres démons, Jésus les a vaincus à la croix. Mais ceux-là, ceux de la pensée, ceux des émotions, on ne les chasse pas au nom de Jésus. On les chasse avec la parole de Dieu. On va terminer avec un cantique, avec les chantres. Pour élever notre foi vers l'espérance, la porte d'espérance. Afin que le miracle, la mentalité s'opère définitivement et soit scellé. Définitivement.
Quand j'ai vu tous ces gens,
alléluia,
qui étaient réunis pour louer le Seigneur, moi qui n'avais pas compris, je me suis approché d'eux pour voir ce qu'ils vivaient par l'Esprit du Seigneur. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai senti une présence qui descendait dans ma vie et qui touchait mon cœur. Je me suis mise à pleurer et à chanter pour le Seigneur.
Alléluia, alléluia.
Moi je veux louer le Seigneur Jésus. Moi je veux louer le Seigneur Jésus. Moi je veux louer le
Jésus.
Seigneur, combien je t'aime.
Quelles que soient les situations, je vais louer mon Dieu.
Moi je veux louer Seigneur Jésus.
Je vais élever la manière de la foi dans ma vie.
Je veux louer.
Je vais croire que l'impossible, que l'impossible deviendra possible.
Jésus.
enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.